commence ce journal avec un nouveau rebondissement sur le fémur de Toumaï. Selon une étude parue dans le Journal of Human Evolution, Toumaï n'était pas bipède, mais quadrupède.
Toumaï, c'est le surnom de ce fossile découvert en 2001 au Tchad, qui a permis d'identifier une espèce, le Sahelanthropus tchadensis. Ce spécimen de crâne, vieux de 7 millions d'années, est considéré pour beaucoup comme l'origine de la lignée humaine. Alors s'agit-il de notre ancêtre le plus ancien, ou s'agit-il d'un paléogorille? La question déchire les paléanthropologues depuis bientôt 20 ans. Pour certains, Toumaï devait marcher et grimper aux arbres comme l'ont fait les australopithèques quelques millions d'années plus tard. Car le crâne laisse à penser que l'attache et l'orientation de la colonne vertébrale sont celles d'un bipède. Et la bipédie, c'est l'un des critères essentiels pour appartenir à la famille préhumaine. En 2004, un fémur a été découvert sur le site. Longtemps resté dans un tiroir, il vient enfin d'être étudié. Selon cette analyse fonctionnelle de l'os, Toumaï se déplaçait à quatre pattes comme un chimpanzé. Mais la controverse n'est peut-être pas finie puisqu'une équipe concurrente affirme l'inverse dans une prépublication qui est toujours en cours d'examen.
Et une nouvelle qui a bouleversé la communauté des astronomes, l'Arecibo, qui est ce télescope iconique géant à Porto Rico, eh bien l'Arecibo va être détruit, Natacha.
D'où l'importance de la maintenance. L'un des télescopes les plus grands, les plus puissants du monde, en fonction depuis 57 ans, menace de s'effondrer à tout instant. Le 10 août, puis le 6 novembre dernier, deux câbles de soutien se sont rompus et se sont effondrés sur la gigantesque parabole. La structure est désormais trop instable et trop dangereuse pour y mener des travaux de rénovation. La Fondation nationale des sciences américaines a donc annoncé hier son démantèlement. C'est une grande perte pour l'astronomie mondiale.
Une étude parue dans le Journal of Alzheimer's Disease confirme le lien entre le microbiote et la maladie d'Alzheimer.
Une équipe italo-suisse a examiné 89 personnes âgées de 65 à 85 ans avec ou sans pathologie, avec des prélèvements sanguins et de l'imagerie TEP, la tomographie par émission de positons. Il s'avère que les taux élevés de bactéries inflammatoires intestinales sont liés au nombre de plaques amyloïdes dans le cerveau, ces plaques qui sont responsables de l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Selon les auteurs, le système sanguin transporterait certaines protéines de ces bactéries jusqu'au cerveau. Alors par la suite, ils souhaitent identifier les bactéries impliquées dans ce phénomène afin de pouvoir cibler et imaginer de nouvelles thérapies préventives.
Et on poursuit ce journal avec l'échec cette semaine du lancement de la fusée Vega et du coup la destruction du satellite Taranis.
C'est rare de rater une mise en orbite. Dans la nuit de lundi à mardi, 8 minutes après son décollage, la fusée européenne a dévié de sa trajectoire pour ensuite tomber dans la mer sans avoir mis sur orbite ses précieux satellites. Alors, les deux engins perdus, ce sont CEOSAT Ingenio, le premier satellite d'observation espagnol, et le satellite français Taranis, conçu par le CNRS, le CEA et le CNES. Il devait explorer la physique des orages et a représenté 15 années de travail. Le CNES, par ailleurs, a étudié déjà la possibilité de faire un Taranis 2. Depuis le début de l'exploitation de la fusée Vega, en 2012, c'est le deuxième échec de son histoire, avec une défaillance durant l'été 2019, due à un défaut de conception. Alors que s'est-il passé lundi dernier? Le PDG d'ArianeSpace a évoqué une série d'erreurs humaines et un défaut lors de la fabrication. Pendant l'assemblage du lanceur en Italie, des câbles auraient été inversés. Une commission d'enquête indépendante a été lancée cette semaine.
Selon une étude parue dans Nature Astronomy, les brutes du vivant peuvent se former dans les nuages interstellaires grâce à ce qu'on appelle la chimie sombre.
Une équipe britannique a reproduit en laboratoire les conditions des nuages interstellaires. Le système a été refroidi à une température de moins 260 degrés Celsius dans un système à ultra-vide. Les astrochimistes ont découvert qu'une molécule prébiotique peut se former dans cet environnement extrême, la glycine, l'acide aminé le plus simple, sans lequel la vie ne pourrait exister. On pensait que la glycine avait besoin d'irradiation des étoiles pour se former. Cette expérience prouve l'inverse. Cette molécule, on l'a déjà détectée dans l'atmosphère de la comète Chury. Donc ces résultats confortent une hypothèse, celle de la panspermie, selon laquelle les comètes transporteraient les éléments clés du vivant.
Et qui donnera lieu dans peu de temps à une émission complète de la méthode scientifique, un mardi prochain. Cette semaine, dans le Journal des Sciences, il a été question d'un projet de télescope à miroir liquide basé sur la Lune. Il a été question du système immunitaire des enfants face au coronavirus, des sursauts radio rapides répétitifs dans notre galaxie et de la mutation du nouveau SARS-CoV-2 et de ses effets, mais également cette semaine dans l'actualité des sciences, Natacha, et en ultra bref.
Des chercheurs ont inventé le M-spray, un spray magnétique qui transforme de minuscules objets en minuscules robots. Ils peuvent être contrôlés par des aimants et naviguer dans le corps pour délivrer des médicaments. Un médicament a été induit de M-spray et il a été conduit avec succès dans l'estomac d'un lapin. Une immense rivière coule peut-être sous le Groenland, une rivière souterraine longue de plus de 1000 km qui traverserait le centre de l'île avant de déboucher au nord. C'est ce que laissent à penser les dernières données radar et modélisation de calottes glaciaires. Mais pour prouver son existence, il nous manque encore des données. Et enfin, un groupe de chercheurs européens va créer une encyclopédie des odeurs. Des historiens, des experts en intelligence artificielle, des chimistes et des parfumeurs travaillent à reconstituer les émanations que l'on pouvait humer en Europe du 16e jusqu'au 20e siècle. Le projet s'appelle Eudoropa. Il vise à reconstituer cet héritage olfactif de la puanteur des villes à celle des champs de bataille jusqu'aux grands parfums historiques.
Et puisqu'on parle d'odeur, c'est l'heure de retrouver notre rubrique hebdomadaire de sciences improbables qui fait la part belle aux odeurs, Natacha, puisque selon une étude parue dans ACS Applied Materials and Interfaces, la transpiration est peut-être le meilleur antitranspirant.
Ouais, c'est digne des Shadow. Oui, votre sueur pourrait vous empêcher de transpirer. L'idée est venue à des chercheurs américains après une intense partie de squash, quand l'un d'eux a remarqué que des cristaux de sel se formaient sur la peau. Les chercheurs ont alors fabriqué de la sueur de synthèse, qui contient les minéraux de la transpiration humaine, tels que le sel et le calcium. Et ils ont ainsi découvert les propriétés antitranspirantes de la transpiration. Ces minéraux peuvent boucher les pores des glandes sudoripares, bloquer la sueur qui se déshydrate à l'intérieur du conduit sans jamais s'écouler. Les scientifiques veulent à présent tester cette lotion sous de vraies aisselles.
Oui, comme quoi on peut trouver des idées en faisant du squash, ce qui est une bonne petite suée, et hop, une bonne idée. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve lundi.